Chers amis, Hachem Alechem Tihyu, Oleorechem Tovim, Mishanim Naimi. Nous allons essayer d'analyser un petit peu la sugya de Hanouka. Comme nous le savons, il n'y a pas de traité spécifique sur Hanouka. Les halachot, les dinim concernant Hanouka sont inclus dans le deuxième chapitre de Shabbat, Bamei Madlikim, qui traite des huiles et des mèches que l'on doit utiliser pour allumer les nérodes de Shabbat, pour nous éclairer le jour de Shabbat. Et la Mishnah a dit que certaines huiles sont à proscrire, ainsi que certaines mèches, parce qu'elles n'éclairent pas, que la lumière produite n'est pas stable, n'est pas de bonne qualité. Ou que ces huiles-là font de la fumée, des odeurs qui dérangent, et que souvent on risquerait de toucher, d'arranger la mèche et la flamme. Donc ces huiles-là sont à proscrire, ainsi que ces mèches. Et la Gemara dit, à la page 21a, « Tane Rami Bachama ». Rami Bachama enseigne. « Petilot ushmanim she'amru chachamim en madlikim ba'em be'shabbat, en madlikim ba'em ba'migdash. » Les mèches et les huiles que Chachamim ont interdit d'utilisation pour Shabbat, on n'allume pas non plus, on ne les utilise pas non plus pour allumer dans le temple. Pourquoi ? Parce qu'il est dit, les Alot Nertamid. Le verset qui concerne le temple, de l'allumage du temple, il est dit que la flamme doit monter d'elle-même. Les Alot signifie qu'il ne faut pas l'aider à monter. Donc il faut utiliser une mèche et une huile qui est de telle qualité que la mèche, que dès qu'on allume, la flamme monte d'elle-même. La Gemara objecte. Voilà qu'on allumait, on utilisait les vêtements usagés des Kohanim, les caleçons des Kohanim, ainsi que les ceintures, les havnettes. On utilisait les fils de ces vêtements pour allumer aussi dans le temple. À quelle occasion? Simhat Bet HaShoeva. Et la Gemara dit, Simhat Bet HaShoeva Shane. C'est différent, Simhat Bet HaShoeva, ce n'est pas une mitzvah minatora, Rachidi. Et il n'a pas dit à ce sujet de cette fête de Simhat Bet HaShoeva, le verset Le'alot Nertamin ne s'applique pas à cela. La Gemara continue et apporte une preuve à cela. C'est que les vêtements des Kohanim ne seraient pas de bonne qualité pour allumer parce qu'ils contiennent du lin et de la laine et que la laine n'est pas bonne pour allumer. Et la Gemara continue, apporte une preuve à cela, que lorsqu'on utilisait les vêtements usagés des Kohanim pour allumer dans le temple, on n'utilisait que uniquement le lin. Les fils de lin, et non pas les fils de laine. La Gemara ici pose problème. Certains maîtres soulignent que dans le temple, quelle lumière allumait-on ? La menorah. Mais pour la menorah, la Torah précise bien qu'il fallait de l'huile pure, de l'huile d'olive pure, katit la maor. C'est-à-dire qu'on prenait la première goutte dès qu'on a écrasé l'olive, on utilisait pour l'allumage que la première goutte d'huile qui sortait du pressoir. Alors c'est évident qu'on ne peut pas utiliser toutes les huiles qui sont mentionnées dans la Mishnah, puisqu'il y a une huile spécifique. Certains maîtres mettent le mot huile entre parenthèses. Cette question-là est posée déjà dans Guillaume Lachas par Rabbi Akiva Eger, qui s'étonne du mot huile. Pourquoi Rami Bahama précise-t-il les huiles et les mèches? Il aurait dû dire que les mèches. D'ailleurs, la Gemara n'objecte pas sur les huiles. La Gemara objecte des vêtements des Kohanim, donc elle ne traite que des mèches. C'est la première question qui se pose. Et cet enseignement introduit toute la sugya, les 3-4 pages de Gemara qui traitent de la mitzvah de Hanouka. Il y a une autre question qui se pose. Dans le Alanissim que nous disons, nous racontons le miracle Et nous disons à la fin que Ubaou Banecha, tes enfants sont venus dans le temple et ont nettoyé le temple et ont allumé Vidliku Nerot Bahatserot Kotchecha. Et ils ont allumé des lumières dans les cours saintes. Le Khatam Sofer pose la question, il s'étonne. Les cours, c'est à l'extérieur du temple. Si les Hashmonaïm ont allumé la menorah se trouvait dans le Echal. Le temple, c'est le cœur, le Echal, c'est le cœur du sanctuaire. Là où se trouvait la menorah, au sud, en face de la menorah, il y avait le Shulchan, la table où on plaçait les pains, les chemapanim, les pains de proposition. Au milieu, il y avait Mizbeah HaKetoret. Et en face, il y avait la parochette qui séparait, le rideau qui séparait le Kodesh HaKodashim du Echal. C'est à cette place-là qu'il fallait allumer. Alors pourquoi est-il dit dans le texte qu'on a allumé à l'extérieur? Bahatserot Kodeshecha. Le Hatser, la notion de Hatser, c'est une cour qui est découverte, qui n'a pas toit. De plus, la Mishnah dans Shkalim dit que pour arriver à faire le service du temple correctement, il est nécessaire que le temple soit reconstruit, mais pas uniquement le temple. Si la bâtisse est reconstruite, mais que les ustensiles du temple n'existent pas, alors le temple, c'est comme si que le temple n'existait pas non plus. Le temple, la notion de temple, c'est le temple et tout ce qu'il comporte. Et la Mishnah dit, à Mizbehot, les autels, les deux autels, les deux Mizbeah, Mizbeah Azaav et Mizbeah Hatat, à Shulhan, la table où on mettait le pain, les parochot, Me'akevim Zeetze. C'est-à-dire que si il en manque un de ces éléments est manquant, Me'akevim et Ta'avoda, on ne peut pas faire le service du temple. Et nos maîtres disent que dans Megillat Ta'anit, il est dit au chapitre 9, que lorsque les Hashmonaïm ont pénétré dans le temple, ils ont été obligés de démonter les pierres du Mizbéar, parce que les Grecs avaient souillé le Mizbéar en faisant des sacrifices d'animaux impurs. Donc ils ont pris toutes ces pierres et les ont enfouies, et les ont cachées. Ils ont été obligés de reconstruire un nouveau Mizbéar. Et tout le temps de Hanouka, le Mizbéar n'était pas construit. Donc il était impossible pour les Hashmonaïm d'allumer, fondamentalement l'allumer la menorah. La menorah n'a pas été allumée alors. Comment ont-ils fait? Il y a d'autres questions qui se posent sur l'allumage que les Hashmonaïm ont effectué. Il est dit, pour répondre à cette question-là, nous allons apporter une Gemara dans Masechet Menahot à la page 99. La Mishnah, la Gemara dit que Shlomo HaMelech avait introduit dans le temple, il avait construit, fabriqué 10 menorot. Il y avait la menorah au milieu, la menorah de Moshe Rabbeinu, 5 menorot d'un côté et 5 autres de l'autre. En face, il y avait la table où il y avait les pains de proposition, celle de Moshe, puis Shlomo HaMelech avait encore ajouté 10 tables. Donc il y avait 10 en face 10. En réalité, il y avait 11 en face de 11. Et dans le Yalkut Shimoni, il est dit que pourquoi Shlomo HaMelech a ajouté ces tables et ces menorot? Parce que à l'époque de Moshe, il n'était pas nécessaire d'avoir une lumière puissante et d'avoir une bracha qui descende dans le monde de manière totale, puisque Am Israël était illuminé par la colonne de feu et qu'il mangeait la manne. Mais à l'époque de Shlomo, le monde, le peuple d'Israël et l'humanité entière avaient besoin que la bracha descende sur terre. Donc ils avaient besoin des céréales, de l'abondance des céréales, ils avaient besoin de l'abondance des fruits, des arbres, etc. Donc c'est pour cela que Shlomo HaMelech avait placé les 10 tables supplémentaires afin que la bracha descende avec beaucoup plus de force. Et en face de ces tables, il y avait la lumière des 10 menorot supplémentaires pour faire descendre cette bracha-là. C'est-à-dire que la lumière de la menorah éclaire la table. C'est grâce à la lumière de la menorah que la table reçoit l'abondance et la bracha. Le Ibn Ezra, Rabbeinu Avraham Ibn Ezra, au début de la parashat Be'alotra, pose une question et soulève la question en quoi la mitzvah d'allumer la menorah est liée à ce qui précède. Ce qui précède, c'est Parashat Nasso. Dans Parashat Nasso, nous voyons que les 12 princes d'Israël ont chacun apporté des sacrifices et des offrandes pour inaugurer le Mizbéach. La Torah fait après le décompte de tous ces corbanotes et se conclut par le verset suivant. Quand Moshe pénétrait dans le sanctuaire pour lui parler, il entendait la voix « Vaishma et akol midaber elav » Mi ben chenea kerouvim. La voix sortait de la caporette qui était sur le haron, passait entre les deux chérubins et atteignait Moshe. Vaidaber elav. Et c'est alors que la parole divine, la prophétie, atteignait Moshe. Et juste après, il est dit, Be'alotra et anerot. Et le Rav Ibn Ezra dit, au nom du Midrash, quel lien y a-t-il entre les deux éléments, entre les deux sujets? Il dit, c'est celui-ci. Il est dit dans Parashat Tetzaveh, ordonne-leur, d'apporter de l'huile pure, de l'huile d'olive pure, katit la mort, elecha. Elecha signifie à toi, qui te donne cette huile. Mais ça signifie aussi que c'est à ton avantage, tu as un intérêt à cela. Et quel est cet intérêt? Le Midrash dit que lorsque la parole de Dieu arrivait chez Moshe, c'était seulement quand il faisait jour. Quand il faisait nuit, Moshe n'avait pas de prophétie. Nous dit le Midrash, nous dit Rabbi Abraham Ben Ezra au nom du Midrash, que lorsque la menorah était allumée, il faisait comme jour, et alors, même la nuit, Moshe Rabbeinu pouvait avoir la prophétie. C'est le lien qu'il y a entre la fin de Parashat Nasso et le début de Parashat Amenorah, Parashat Be'alotra. Il est à noter alors que la mitzvah d'allumer la menorah se fait sur deux plans. Il y a d'une part la mitzvah d'allumer la menorah telle que la Torah l'ordonne. Allumer la menorah pour faire descendre la lumière sur terre, c'est la mitzvah de menorah. Il y a une autre mitzvah qui a été innovée par Shlomo HaMelech, par le surplus des 10 menorot, qui est de faire la lumière dans le sanctuaire. Il fallait que le sanctuaire soit illuminé au maximum. Et cette illumination-là apportait au monde la connaissance et la science, la lumière intellectuelle, spirituelle. C'est le rattachement à la prophétie. Certains maîtres disent que même dans le deuxième temple, il y avait 10 menorot, 10 shulchanot et 10 menorot. Comme Tosfot Rid dans Maseret Yoma apporte une preuve spécifique que même dans le deuxième temple, cela se faisait ainsi. Si c'est comme ça, on comprend maintenant ce que les Hashbonaïm ont innové en allumant les lumières. Les Hashmonaïm n'ont pas allumé la menorah en tant que menorah. Ils ont allumé la menorah comme les menorotes supplémentaires de Shlomo HaMelech qui sont là que juste pour faire la lumière, pour illuminer le sanctuaire.
Le sanctuaire, quand il y pénètre, est souillé, dévasté, totalement sale. C'est comme il est précisé, « Upinu et Techalecha », ils ont nettoyé, débarrassé ton sanctuaire. Donc il était impossible alors de faire les sacrifices. Il fallait totalement nettoyer cela et reconstruire, replacer les éléments à leur place. C'était l'obscurité totale. Et pour lutter contre cette obscurité, pour donner la puissance à Am Israël de se rattacher à la lumière, ils ont allumé Vidliku Nerot Bahatserot Kotchera. Revenons à notre Gemara. Rami Bahama nous enseigne les huiles et les mèches que Chachamim ont interdit d'utilisation pour Shabbat étaient aussi interdits d'utilisation dans le temple. Nous avons dit, certains maîtres posent la question, la menorah, il fallait Shemen Zaid Katit Lamaor. Il fallait de l'huile spécifique, donc le mot Shemen est en plus. C'est ça, cette question-là est valable uniquement si nous disons que dans le temple, on n'allumait que la menorah. Mais si nous disons, comme nous venons de l'expliquer, qu'il y avait un autre allumage qui se faisait, un allumage supplémentaire des 10 menorot que Shlomo HaMelech a introduit, c'est que la mitzvah a été d'illuminer le temple. Alors Rami Bahama va nous enseigner que même cette mitzvah supplémentaire d'illuminer le temple, il ne fallait pas la faire avec des huiles qui n'étaient pas de bonne qualité. Et c'est le sens du texte que nous disons, que dans Al Nissim, ve ou baou banecha, ou pinou echalecha, tes enfants sont venus et ont nettoyé ton temple, et ils ont allumé ve diko nerot, bahatserot kotchecha, ils ont allumé des lumières dans tes cours saintes. Il s'agit pas de la menorah, il s'agit d'illuminer les dits, d'allumer cette lumière qui était une lumière supplémentaire pour illuminer. Cette lumière-là qui a amené la prophétie, qui rattache Am Israël à la prophétie. À l'époque des Grecs, la prophétie a cessé. La rencontre entre Shimon HaTzadik et Alexandre le Grand se passe en 3448. Ça fait 1000 ans que nous sommes 1000 ans exactement depuis Matan Torah, 2448, c'est le don de la Torah, c'est le début de la prophétie. 3448, c'est la fin de la prophétie. C'est l'année où les trois derniers prophètes décèdent et quittent ce monde. C'est l'année où Alexandre le Grand domine le monde. Dès qu'Alexandre le Grand nous domine le monde, la prophétie disparaît. Comme il est dit dans Seder Hadorot, Adkan divrei Nevi'im. Jusque-là, la Torah a été transmise par des prophètes, Mikan va'elach, et à partir de maintenant, At Oznecha, tend l'oreille et écoute les paroles des sages. Ushma divrei Chachamim. Donc la lutte, le combat qu'il y a entre Shimon HaTzadik et Alexandre le Grand, c'est le combat de la lumière de la Torah, le rattachement de la lumière de l'étude de la Torah à la prophétie. La prophétie qui a disparu, mais où a été enfouie cette lumière de la prophétie? Elle est enfouie à partir de maintenant dans les paroles des sages. Et c'est le sens profond de Hanouka. C'est à partir de là que la Torah, entre guillemets, va s'affaiblir, la lumière de la Torah va s'affaiblir, va se rétracter, se concentrer en elle-même, elle va cesser d'illuminer le monde de manière splendide, totale, puissante. Et elle va se renfermer, se retourner sur elle-même et se concentrer comme la braise qui s'éteint, la flamme qui s'éteint et qui pénètre à l'intérieur de la braise, qui brûle à l'intérieur. Pour la faire apparaître, il faut souffler. Et c'est le sens de l'étude. C'est la Torah orale telle que nous la connaissons, va commencer à apparaître à ce moment-là. Donc la mitzvah d'allumer la Hanouka, c'est la perpétuer cette mitzvah d'illuminer. D'illuminer non pas la mitzvah première de la menorah, mais la deuxième mitzvah de la menorah. Le rattachement à la prophétie, comme nous dit Ibn Ezra. Tant qu'il y a de la lumière, la prophétie peut nous atteindre. Nous avons la mitzvah d'allumer D'ailleurs, la Gemara pose la question, est-ce que la mitzvah, c'est que ça soit allumé, ou la mitzvah est d'allumer? Et la dit que mitzvah t'as de la ka, la mitzvah c'est bas de la ka, la mitzvah c'est d'allumer. Même si tout de suite après ça s'éteint, c'est pas grave, on a fait la mitzvah. Parce qu'on veut marquer que l'essentiel de Hanouka, c'est d'allumer. On n'est pas obligé de réussir, de répondre à toutes les questions. On n'est pas obligé de tout comprendre. On n'est pas obligé, ça ne dépend pas de nous. Notre obligation, c'est d'allumer. C'est-à-dire, quel est le sens d'allumer? C'est se donner les moyens de s'investir dans l'étude, s'investir dans la sainteté. La réussite ne dépend pas de nous. C'est le sens que Adlaka ou Samizva, c'est l'allumage qui fait la mitzvah, et non pas le fait que ça soit allumé. L'essentiel, c'est d'essayer. L'essentiel, c'est d'allumer. L'essentiel, c'est de s'investir. Si nous faisons ça, alors nous avons rempli notre rôle et nous avons compris le sens profond de la fête de Hanouka, la lutte de la lumière contre l'obscurité. Yeratzon, que Akadosh Baruch Hu nous éclaire, nous illumine et qu'il remplisse le monde de lumière et que enfin apparaisse le temps où la terre se remplira de la connaissance par la venue du Mashiach. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.